Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour une heure pour analyser trois des sujets de l'actualité de cette semaine sur le continent. Et c'est en votre compagnie, Francis Laloupo. Bonjour.
Bonjour Liliane, heureux de vous retrouver. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices, bien sûr.
Plaisir partagé. Comment le gouvernement centrafricain va-t-il répondre à l'appel à la démission lancé cette semaine par l'opposition ? Celle-ci accuse les autorités et la MINUSCA d'incapacité à assurer la sécurité des Centrafricains. Pour l'instant, le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandi est toujours en place, mais la tension persiste alors que le pays célèbre ce week-end son accession à l'indépendance. C'était le 1er décembre 1958. Certains appellent au boycott de cette fête. L'opposition togolaise sera a-t-elle entendu ? Elle a organisé de nouvelles manifestations cette semaine pour exiger des réformes politiques et la récomposition de la commission électorale avant la tenue des législatives du 20 décembre prochain qu'elle entend boycotter. Le pouvoir réplique que cela traduit simplement l'impréparation de l'opposition. La CEDEAO, médiatrice dans cette crise, est-elle encore en mesure de rapprocher pouvoir et opposition au Togo ? Analyse dans cette émission. Et enfin, la RDC, après une première semaine de campagne électorale plutôt discrète, les 21 candidats en lice pour la présidentielle du 23 décembre prochain devraient probablement être plus actifs dans les semaines à venir. Cette semaine, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, désormais alliés, sont rentrés en RDC et ont signé devant les caméras leur accord pour, je cite, « former un ticket gagnant pour ce scrutin ». Quelle opposition face à Emmanuel Chadari, le candidat de la majorité ? Rendez-vous dans le débat. Je vous cède le micro, Francis Laloupo, pour présenter nos invités.
Oui, il y a notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Bangui en Centrafrique, depuis Bambari précisément, Monseigneur Bertrand Guy Richard Apora Ngalanibé, évêque de Bambari en Centrafrique. Monseigneur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Douala, Denis Kouébo, rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Jour, président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Denis Kouébo, bonjour.
Bonjour Francis et bonjour Monseigneur aussi.
Merci à vous d'être là également. Petite fiche de présentation de notre grand témoin, Monseigneur Bertrand Guy Richard Apora Ngalanibé. Vous avez été ordonné diacre en 2003 à Douala. Vous êtes titulaire d'un DEA en droit privé fondamental obtenu en 2011 à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes depuis 2012 le supérieur de la communauté des pères dominicains de Bangui, professeur de théologie au Grand Séminaire de Brazzaville. De 2008 à 2012, vous êtes depuis 2014 le président de la conférence des supérieurs majeurs de Centrafrique. Vous avez été nommé par le pape François, évêque co-adjuteur du diocèse de Bambari le 10 décembre 2016. Ordonné évêque le 25 mars 2017, vous avez été installé comme évêque titulaire du diocèse de Bambari le 17 décembre 2017 précisément. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « L'Église et la démocratie en Centrafrique » publié en 2014 aux éditions L'Harmattan. Monseigneur Bertrand Guy Richard Apora Ngalanibé, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation. À vous Liliane à Dakar.
Merci Francis. Juste signaler Francis que notre invité, Monseigneur Bertrand Guy Richard Apora Ngalanibé, est de passage à Bangui et il nous répond donc de Bangui. Tout à fait. Le 15 novembre dernier, une attaque de groupes armés fait plus d'une soixantaine de morts à Lindao, dans le centre de la Centrafrique. Une tragédie de trop qui a mis en colère l'Église catholique, société civile et l'opposition. Elles ont demandé au gouvernement, qui selon eux a échoué à assurer l'un de ses devoirs régaliens, de rendre son tablier. Précision avec le correspondant de BBC Afrique à Bangui, Max Alaroum.
Selon les leaders des partis politiques d'opposition, le gouvernement actuel n'est plus en mesure d'assumer ses devoirs régaliens. Alexandre Ferdinand Guendé, président du RPR, le Rassemblement pour la République, un membre du collectif.
Après les tueries de Bangassou, kilomètre 5, Bambari et Batangafo, vient le tour d'Alindao, où les habitants ont été sauvagement assassinés, et ce, dans l'indicible indifférence de ceux qui ont la lourde responsabilité de gouverner notre pays. Il s'agit sans nul doute d'un déni de responsabilité.
L'opposition démocratique pense que le gouvernement doit démissionner, tout comme certains contingents de la MINUSCA doivent se retirer du fait de leur inaction. Ces prises de position interviennent après l'interpellation du Premier ministre à l'Assemblée nationale sur les événements tragiques des villes d'Alindao, Batangafo et Bambari. Interpellation au cours de laquelle Simplice Mathieu Serranti a ouvertement rendu responsable la MINUSCA dans la non-protection des populations civiles. Max Alaro Bongui pour BBC Afrique.
Voilà. Monseigneur Bertrand Guy Richard Apora Galla Nibé, vous êtes donc évêque de Bambari. Avant de poursuivre ce débat, pouvez-vous nous dire quelle est la situation sécuritaire dans cette région?
Merci. La situation sécuritaire est très précaire. Après donc, cette attaque dont vous avez parlé le 15 novembre, pour l'instant, les groupes armés sont encore présents dans la ville. Et ils ont deux checkpoints, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de la ville. Et on aurait appris, on a appris que la MINUSCA a détaché un contingent gabonais, le contingent gabonais pour un renfort du contingent qui est sur place, le contingent mauritanien qui malheureusement n'a pas pu arrêter cette spirale de violence. Et qui, malheureusement, a donné la mort à plus d'une soixantaine de morts. J'ai dit plus d'une soixantaine, parce que les confrères ont compté les morts, et d'autres sont aussi morts dans la brousse.
Voilà. Le contingent mauritanien dont la société civile, l'opposition, demande le départ.
Je dois d'abord faire une mise au point. Je pense que... il ne faudrait pas, parce que l'intervention de l'opposition intervenue a été faite après celle de l'Église. L'Église, du point de vue de l'Église, nous avons dit que nous demandons à l'Église de Dieu, famille de Dieu en Centrafrique et aux hommes de bonne volonté de s'abstenir de célébrer le 1er décembre.
C'est-à-dire la fête nationale. On y reviendra, Monseigneur, si vous permettez. Donc, vous avez dit que la situation sécuritaire est difficile à Bambari. Si on revient donc à l'actualité de la semaine, le Premier ministre qui a été interpellé par les députés avant l'opposition et une partie de la société civile a indiqué que la responsabilité incombe à la MINUSCA. C'est-à-dire que le Premier ministre interpellé a estimé que les attaques qui se multiplient dans le pays, lui, il a renvoyé la balle au niveau de la MINUSCA. Qui assure réellement la sécurité des Centrafricains? À qui incombe ce devoir?
Écoutez, vous savez que le contexte actuel de la Centrafrique est difficile et que l'armée centrafricaine, les FACA, qui normalement devrait assurer la protection de la population, et cette armée... malheureusement, est en cours de réforme. Elle a été mise à mal du fait de l'entrée en pouvoir, de l'arrivée au pouvoir de Ndokodia dans le temps où il a dissous l'armée. Et maintenant, depuis quelques temps, la MINUSCA est censée, assurer la sécurité des populations civiles centrafricaines. Et malheureusement, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a une certaine impartialité au sein de la MINUSCA, du fait que certains contingents, il faut le dire, certains contingents n'assument pas pleinement leur rôle. C'est le cas. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question par rapport à Alindao, ce n'était pas par rapport à Bambari, à Alindao, les graves violences de ces derniers temps ont donné la mort à plusieurs de nos concitoyens. Mais le contingent qui était opérationnel là-bas, c'était le contingent mauritanien. Ils n'ont pas, et ils l'ont affirmé, au moment de l'attaque du site du déplacé à côté de l'évêché, à aucun moment ils n'ont tiré un coup de feu pour dissuader, mais plus que pour faire une sommation. Ça, nous estimons que c'est quand même grave. Bon, les incendies ont été faits au vu et au su de ce contingent. Le même problème s'est posé aussi à Batangafo. On a parlé de ça tout à l'heure. Batangafo, avec le contingent pakistanais, il était là. Et pourtant, on est venu incendier le site déplacé, incendier aussi le presbytère. Donc, vous voyez que le gouvernement actuel, on doit le dire, n'a pas les moyens de sa politique.
Merci.
Merci.
Donc, pour vous, l'absence d'une armée régulière fait de fait de la MINUSCA le premier responsable de la sécurité des populations. Merci beaucoup.
Tout à fait.
Francis.
Monseigneur Bertrand Guérisha Poura Ngalanibé, voilà, depuis plusieurs mois maintenant, les églises sont attaquées, des ecclésiastes et des fidèles catholiques blessés et tués. Alors, dans les discours officiels, vous le savez, hein, il est de bon ton de dire que la question religieuse n'est qu'un simple prétexte pour les groupes armés Séléka et Antibalaka. Pourtant, il y a quelques jours, Monseigneur Nestor Désiré Nongo Aziabia, qui est vice-président de la conférence épiscopale centrafricaine, déclarait ceci, je le cite, « On est en train de nous pousser vers une guerre de religion ici en Centrafrique. » Alors, face à ce que vous observez, Monseigneur, est-ce que vous continuez à écarter le caractère confessionnel de ce conflit ?
Je le dis, le conflit actuel en Centrafrique, ce n'est pas un conflit interreligieux. Vous savez, nous avons vécu dans ce pays plus de 50 ans, hein, avant que cette crise n'arrive, il n'y a jamais eu de commun entre musulmans et chrétiens. Ce qui se passe actuellement, et c'est le lieu de le dire, c'est que la Séléka qui est arrivée au pouvoir, qui a pris le pouvoir en 2013, elle s'est alliée des groupes armés, qui, à majorité, dans la plupart des cas, était constitué de musulmans. Et on a tendance à pouvoir créer l'amalgame en disant que c'est un conflit interreligieux. Je dois vous le dire, même dans le cas actuel de la Centrafrique, certains musulmans sont contre ce qui se passe. C'est évidemment un conflit à relan économique.
On entend bien votre analyse, on la comprend très bien, mais quel message envoient les groupes armés qui attaquent les églises selon vous?
Il faut le dire, c'est que, bon, voilà, ce qui s'est passé, je prends le cas de Batangafo et bien d'autres sites aussi, Batangafo, Alindao, ou bien Iti et Seko. Les groupes armés estiment qu'il y a des anti-Bagatas qui se faufilent parmi cette population qui s'est réfugiée dans les sites et qu'il faut faire disparaître ces sites. Ça, c'est un argument de taille. L'autre chose, c'est qu'il faut le dire, vous voyez, la plupart de ceux qui constituent ces groupes armés sont des analphabètes. À tort, on nous dit que ce sont les églises catholiques qui hébergent les anti-balakas et qui leur fournissent les armes et les munitions. Que Vatican aurait donné de l'argent pour que voilà, nous puissions soutenir les anti-balakas.
C'est-à-dire les anti-balakas, pour préciser, qui sont pour la plupart constitués, un groupe armé constitué essentiellement de chrétiens.
C'est ce qu'ils disent en tout cas.
Oui.
Pas les civils, oui, je dirais que
c'est la perception qu'il y a.
Il y a des animistes, il y a des athées aussi au sein des anti-balakas. On a vite fait de créer cet amalgame. Il est hors de question de dire que les groupes anti-balakas sont des groupes chrétiens.
Dans les attaques de ces ex-Séléka, c'est en représailles à l'accueil supposé ou que vous réservez aux éléments anti-Balaka qui sont présentés comme des chrétiens.
Ça, c'est l'argument des Séléka. Hein. Sur les sites déplacés, partout ailleurs, voilà, on a fait tout le monde. Mmh. Alors, si d'aventure, eux, ils pensent que, en fait, la vérité, si je prends le cas de la ville d'Alindao, plus concret, le site de déplacés d'Alindao contient 26 000 déplacés. La ville d'Alindao, de manière générale, dans cette ville, nous trouvons au moins 30 000 habitants. Vous voyez, or, La plupart de cette population se trouvent sur le site, ce qui fait que ces groupes armés ne peuvent pas avoir de mainmise sur eux pour les racketter. Ça, c'est aussi une vérité. Parce qu'ils rackettent. Hein, ils rackettent les populations. Hein, le passage des véhicules, ou bien, dans le cas de mon diocèse, je peux vous le dire, où on cultive beaucoup le café, mais ils viennent là exiger aux cultivateurs de payer les taxes sur les cafés. En plus du trafic d'or et de diamants auquel il s'adonne dans la région.
Donc c'est une guerre essentiellement économique, en fait. Hein.
Je pense que c'est le lieu de dire c'est une guerre à relent économique.
À relent économique. Mais, Monseigneur, juste un mot sur... Pardon, excusez-moi.
Allez-y. Oui, excusez-moi, au-delà de ça, il faut le dire, il y a des interférences étrangères dans ce conflit. Il y a beaucoup d'interférences.
Quels sont les pays ciblés, quels sont les pays étrangers que vous avez ciblés comme, étant impliqués dans la crise dans votre pays?
Les pays voisins comme le Tchad et le Soudan en particulier, d'où viennent la plupart de ces mercenaires, parce que la CELAC a été conçue en grande partie des mercenaires étrangers venus du Tchad et du Soudan. Mais aussi, il y a des puissances occidentales. Et ils savent ce pourquoi ils essaient de tirer les puissances qui soutiennent
lesquelles
ces groupes armés.
Lesquels, monseigneur?
On cite de manière régulière la France dans ce conflit. La France, la Russie, et maintenant la Russie qui entre dans la danse. Vous voyez, il y a des guerres de positionnement stratégique. Oui. Comme ça.
D'accord. Merci. Mon père, on va donner c'est bientôt la pause. On va permettre à France
à Denis Kobo. Denis Kobo, votre regard sur cette situation qui se complique en Centrafrique, situation sécuritaire.
Je ne crois pas que la situation sécuritaire se complique en Centrafrique. C'est une situation qui n'a jamais évolué, Francis. Donc, elle a toujours été ainsi. Mmh. Et nous avons eu à débattre de la Centrafrique sur cette antenne à une autre occasion. Et la situation n'était pas différente. Sauf que les foyers... Les modules opératoires du conflit se déplacent de temps en temps, la réalité étant la même. La dernière question que vous avez posée à Monseigneur, en réalité, résume tout ce qui se dit à l'extérieur sur la crise centrafricaine. Il y a une volonté d'abord de ne pas dire la vérité de cette guerre-là, à savoir faire passer dans l'opinion la thèse d'un conflit entre deux communautés. Ce qui n'est pas vrai parce qu'il n'existe pas que deux communautés religieuses en Centrafrique, pourtant, cette guerre touche tout le monde. Il y a une lutte pour le contrôle de l'espace vital en Centrafrique. Et la guerre, à un moment donné, a opposé M. Bozizé à Michel Djotodia, qui a mené une rébellion jusqu'à entrer dans la capitale. À ce moment, personne ne parle ni des chrétiens, ni des musulmans. Mais pour faire l'économie de la guerre et l'usure, voilà l'inflation de l'insécurité. Il a fallu populariser la guerre. Pour populariser la guerre, il faut opposer les communautés. Ça se passe comme ça dans la plupart des pays africains. Donc aujourd'hui, la question que personne ne veut se poser, c'est que comment est-ce qu'on est arrivé à une situation où un pouvoir, un régime est démocratiquement élu, parce qu'il y a quand même le président Tadira qui a été élu. À l'époque, nous demandions comment est-ce qu'on peut, vaille que vaille, organiser une élection pour avoir un président à la tête d'un pays qui n'appartient pas aux citoyens de ce pays-là.
Merci, donc, Denis. On va vous laisser poursuivre tout à l'heure, juste après la pause.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
Avec notre grand témoin invité depuis Bangui au téléphone, Monseigneur Bertrand Guy-Richard Apora Ngalanibé, évêque de Bambari en Centrafrique, et notre confrère invité depuis Douala au téléphone, Denis Kobo, rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Jour. Denis Kobo, vous pouvez aller jusqu'au bout de votre exposé, ensuite on posera encore quelques questions à Monseigneur sur la situation sécuritaire en Centrafrique. S'il vous plaît, Denis.
Les partisans de l'élection à tout prix en Centrafrique ont disparu des écrans radars, parce qu'on disait qu'il fallait absolument avoir un président légitimement élu. et le président Touadéra a été élu. Sauf que cela n'a pas résolu le problème. Il ne peut pas activer les leviers.
Vous faites allusion au retrait en 2016 des forces de l'opération française Sangaris.
Oui, donc toute la coalition internationale, tous ceux qui ont intérêt sur la Centrafrique, ont dit à la communauté internationale qu'il fallait que l'élection se tienne. Or, l'élection se tenait dans un pays qui était en guerre. Et une guerre qui ne s'est jamais arrêtée un seul instant. C'est elle qui continue aujourd'hui. Donc il y a une élection pour rien, parce qu'il fallait absolument avoir un président. Ça, c'est pour la forme. Tout à l'heure, vous posez la question de savoir à qui incombe la responsabilité de la sécurité des Centrafricains. C'est inadmissible d'apprendre que la sécurité des citoyens d'un pays incombe à une autorité autre que les autorités institutionnelles de ce pays-là. Donc si la Centrafrique avait atteint un point où elle pouvait être administrée par une présidence légitime, c'est-à-dire élu, il faudrait bien qu'on le dise si c'est lui qui peut activer les leviers pour protéger les citoyens centrafricains. On le dit, ce n'est pas le cas. Il y a des forces internationales qui sont stationnées en Centrafrique, semble-t-il, pour stabiliser la situation du pays. Est-ce que cette situation est stable? Non. Est-ce que cette force a évolué sous le chapitre 7 pour pouvoir imposer la paix aux belligérants? Non, ce n'est pas le cas.
Donc vous êtes de ceux, Denis, qui pensent qu'on ne doit pas renouveler le mandat de la MINUSCA?
Il ne s'agit pas du mandat de la MINUSCA. Il s'agit pour la France, la Russie aujourd'hui, l'Union européenne, les pays de la CEMAC, de se désengager de la Centrafrique au profit des forces armées centrafricaines que personne ne veut outiller, personne ne veut une force centrafricaine forte parce qu'il y a des intérêts étrangers en jeu, tchadiens, soudanais, français, européens et des pays d'Afrique centrale aussi qui reproduisent un peu cette crise-là à des fins politiques.
Merci,
Denis. Merci. Il faut que cela se dise pour que l'opinion sache qu'il n'y a pas une guerre religieuse en Centrafrique, mais que c'est une guerre qui charrie beaucoup d'intérêts économiques, comme Monseigneur l'a dit tout à l'heure.
Et que ces personnes s'arrangent à maintenir l'insécurité et le chaos pour mieux exploiter les ressources. En tout cas, c'est ce que vous soutenez. Francis, on va peut-être encore 2-3 minutes sur la Centrafrique avec notre invité.
Bonsoir, Bertrand Apora Ngalanibé. Je voulais qu'on revienne quelques minutes, en fait, brièvement en tout cas, sur la réaction de l'opposition qui demandait à l'État de rendre son tablier parce que cet État n'est plus capable de remplir sa mission régalienne, à savoir la protection des citoyens et la protection aussi de la liberté du culte. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Quelles sont les relations de l'Église avec l'État centrafricain?
Merci. Il n'y a pas de relation conflictuelle entre l'Église et l'État centrafricain.
Qu'attendez-vous de cet État? Parce que l'Église vous a posé la question tout à l'heure, mais est-ce que vous comprenez que l'opposition demande à cet État, enfin au fond, finalement, à quoi sert-il dès lors qu'il ne peut pas remplir cette mission régalienne?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez qu'il y a un embargo qui pèse sur la République centrafricaine et continue sur le pays. Et qui fait que...
L'embargo sur les armes.
Dans la perspective sur les armes, et même dans la perspective de la réforme qu'on a entamée pour nos forces armées, on a du mal à pouvoir doter cette armée des armes et des moyens logistiques. On ne sait pas trop. Là où le problème, vous vous souvenez.
En fait, vous n'entendez rien de l'État dans ce contexte, quoi, c'est ça?
Je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que il y a des efforts, il faut le reconnaître, il y a des efforts qui se font, mais il faut encore doubler ces efforts-là, dans le sens de la restauration de l'État, nous le reconnaissons. Je pense que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on le reconnaît. Mais le problème, c'est qu'il faut accélérer ce processus de la réforme des forces armées.
Donc pour l'instant, Monseigneur, est-ce que vous démarquez de l'appel à la démission de l'actuel gouvernement lancé par l'opposition?
C'est un gouvernement qui a été mis en place. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons de manière régulière fait les élections dans ce pays. Il faut faire confiance à nos dirigeants. Ce n'est pas parce que il y a des failles dans la gestion actuellement. C'est une erreur qu'il faut très vite corriger. Nous n'avons pas dit qu'il y ait démission du gouvernement. Nous n'avons pas parlé de ça. Ce que nous avons voulu faire tout bêtement avec la conférence de presse que nous avons tenue, nous avons voulu crier haut et fort et dire notre ras-le-bol par rapport à la situation qui prévaut. Mmh. Et que l'État centrafricain, aussi bien que la MINUSCA, qui a tous les moyens, je dis bien, qui a tous les moyens à travers la résolution du Conseil de sécurité pour assurer, c'est bien dit dans les résolutions du Conseil de sécurité.
Mais la MINUSCA n'a pas un mandat offensif, monseigneur, vous le savez bien. La MINUSCA fait ce qu'elle peut, évidemment, pour affronter les groupes armés, mais cette MINUSCA n'a pas un mandat offensif. Au fond, monseigneur, on fait beaucoup de reproches à la MINUSCA, oui. Hein, mais est-ce que vous reconnaissez quand même que la situation aurait été plus dramatique si cette force n'était pas présente en Centrafrique?
Je suis d'accord avec vous, mais quand vous disiez bien, dans cette résolution, il y a quand même des choses qui sont promues. La prévention, il faut faire de la prévention. La dissuasion, ça, c'est inscrit dans la résolution. On ne peut pas dire que la MINUSCA n'a pas les moyens de sa politique. Je vous ai dit tout à l'heure, à la ligne d'Aosti, qui s'est passé, aucun coup de sommation.
D'accord. Monseigneur, est-ce que le problème du désarmement s'est maintes fois posé sans qu'il soit effectif? Qui considérez-vous aujourd'hui comme le principal obstacle à la paix dans votre pays?
Ils sont nombreux, certainement. Ceux qui ne veulent pas que la paix revienne dans ce pays, il y a d'abord les groupes armés qui ne voudraient pas, ça c'est sûr, que la situation ne change pas et l'insécurité demeure pour qu'ils continuent de piller les ressources de notre pays. L'or, le diamant. Je vous dis, je suis dans mon diocèse, mon diocèse est vaste, et dans ce diocèse, il y a une forte concentration des groupes armés. Tout simplement parce que c'est dans ce diocèse-là qu'on trouve l'or et le diamant.
D'accord. Et en dehors des groupes armés?
En dehors de ces groupes armés, il y a tous ceux qui ont intérêt à ce que la situation perdue.
Les puissances étrangères dont vous parlez.
Comment se fait-il que on parle d'embargo sur les armes, que les groupes armés continuent de se réarmer? Où ils trouvent les armes? Il y a des complicités quelque part. Il y a des complicités.
Merci.
À qui profite la crise chez nous?
À qui profite la crise, monseigneur, c'était bien la question. Mais vous n'évoquez pas un seul instant la responsabilité des acteurs politiques nationaux.
Oui.
En dehors des groupes armés, bien sûr.
De continuer, et on doit le dire, même au sein de la classe politique centrafricaine, malheureusement, il y en a qui attisent le feu. Il y en a qui attisent le feu.
Par quels actes, en posant quels actes, par exemple, très rapidement, en 30 secondes?
Mais nous avons les témoignages du genre où certains responsables politiques, acteurs politiques, soutiennent la rébellion à l'intérieur du pays, si vous voulez. Ils financent ces groupes d'armes. Mmh.
Merci beaucoup. Prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Avec notre grand témoin au téléphone depuis Bangui, Monseigneur Bertrand Guy Richard Apora Ngalanibé, évêque de Bambari en Centrafrique. Notre confrère invité depuis Douala au téléphone, Denis Kwebo, rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Jour et président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Nous allons parler du Togo à présent avec un processus électoral plutôt compromis. Le remède électoral pour résoudre la crise déclenchée en août 2017 marque déjà ses limites au Togo, où le collectif des 14 partis de l'opposition a décidé de boycotter la législative prévue le 20 décembre prochain. L'opposition conditionne sa participation à la recomposition du bureau de la CENI, la commission électorale, ainsi qu'à la révision du fichier électoral. Pour la majorité au pouvoir, ces exigences de l'opposition masquent plutôt l'impréparation de cette opposition à l'égard de cette épreuve électorale. Dans ce contexte, la commission épiscopale togolaise donne de la voix hein, pour dénoncer la mauvaise foi des acteurs politiques qui, selon elle, je cite, « prennent le pays en otage ». Il faut dire que ce nouveau rebondissement de la crise ramène au centre du débat la question récurrente qui alimente cette interminable crise, à savoir celle des réformes constitutionnelles et institutionnelles réclamées par l'opposition, promises par le gouvernement et recommandées par le facilitateur de la CEDEAO, des réformes qui sont diversement appréciées ou interprétées par les deux parties en conflit. Alors, on va se tourner vers vous, Monseigneur Apora Ngalanigbe, si vous êtes un peu, si vous informez hein, sur la situation au Togo. Est-ce qu'il faut s'étonner au fond de ce rebondissement hein, quand on sait que toutes les questions qui ont été à la base de la crise politique au Togo n'ont pas été résolues avant même la mise en place du calendrier électoral? Il y avait eu un projet de dialogue qui n'a jamais abouti. Est-ce qu'on peut résoudre une crise simplement en organisant des élections?
Je pense que, à mon avis, avant d'organiser les élections, il faut qu'il y ait des institutions fortes. Je vais parler ici des textes législatifs qui organisent ces élections. Vous avez parlé tout à l'heure du fichier électoral, qu'il y a une sorte d'impréparation à ce niveau. Et tant que ces éléments n'ont pas été clarifiés au départ, il est difficile pour moi, je crois, il est difficile de pouvoir organiser des élections crédibles et transparentes. Le fait qu'il y ait déjà des divergences autour de cela, c'est moi bien qu'il y a quelque part malaise au sein de la classe politique togolaise.
Liliane.
Oui, Denis, alors, l'opposition n'a pas clairement demandé le retrait de la CEDEAO ou son remplacement en tant que médiatrice de cette crise. Mais quand on écoute quand même certains leaders de l'opposition, on sent qu'il y a, disons, une rupture de confiance avec la CEDEAO. Est-ce que, compte tenu de la durée de la crise, ne faut-il pas envisager peut-être un autre médiateur?
Et je crois qu'avec l'exemple togolais, on a vite compris que, qu'il vaut mieux toujours résoudre nos problèmes entre nous que d'avoir invité ceux qu'on présente souvent comme étant la communauté internationale. Et la CEDEAO ne peut pas être valablement médiatrice dans cette crise au Togo, d'autant plus qu'elle s'est organisée pour relancer à peu près le régime de fort en Yacimbe sur ce pays-là.
Oui, mais au début de sa médiation, tous les acteurs, pouvoir et opposition, étaient d'accord sur la médiation de la CEDEAO.
Les acteurs étaient d'accord parce que tout le monde n'avait pas d'expérience politique. Ceux qui ont l'expérience politique savent que la CEDEAO, c'est le syndicat des gouvernants de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, comme la CEMAC, c'est le syndicat de ceux qui sont en affaires ici. L'Union africaine étant le syndicat de ceux qui sont aux affaires au niveau africain. Donc, ils n'ont pas compris que chaque fois que vous allez voir la soi-disant communauté internationale intervenir dans une crise, même comme médiateur, c'est pour désamorcer une bombe, c'est pour décrisser l'atmosphère sans véritablement apporter quelque chose de fondamental. Parce que la crise, la négociation tenait à quoi? La médiation tenait à quoi? La médiation a tout simplement été à calmer la rue au Togo, relancer le pouvoir de force, qui va aux élections. Sinon, la CEDEAO, en tant que médiatrice, aurait pu agiter, il serait que le spectre d'une sanction pour pousser le pouvoir à jeter le cadre d'une élection en ligne de France.
Donc vous dites que la CEDEAO est au chevet du Togo depuis longtemps et ça n'avance pas, c'est un échec, si je vous ai bien compris. Donc vous pensez qu'il faut envisager le remplacement de l'organisation sous-régionale ouest-africaine?
Il ne faut pas remplacer. Moi, je suis par ailleurs un petit militant politique. Et l'expérience a montré qu'une négociation, une discussion qui concerne essentiellement les protagonistes mène toujours vers une porte de sortie. Et les négociations qui sont menées par des gens qui ont soit une prise d'intérêt ou des intérêts plus ou moins cachés aboutissent sur une impasse. Donc on a une rue qui s'embrase au Togo, on a une communauté internationale qui, à travers la CEDEAO, décide de faire une médiation. À la fin, on se retrouve dans une situation de contestation sociale.
Mais comment vous expliquez, Denis, que la CEDAO ait pu dénouer une crise, en Gambie, pardon, de manière tout à fait remarquable d'ailleurs, vous direz que c'était un contentieux électoral. La CEDAO marque aussi des points plutôt positifs hein, en Guinée-Bissau. Et puis voilà, au Togo, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'insoluble dans cette crise qui dure quand même depuis plus d'une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années.
Francis, c'est vous qui voyez le succès sous votre prisme. Les autres personnes ne voient pas.
À Bangui, en tout cas, il y avait une situation de crise qui a été dénouée. On peut ensuite apprécier la méthode, mais en tout cas...
À Banjul, en Gambie.
À Banjul, pardon. À Banjul, en Gambie.
La CEDEAO résout les situations de crise au gré des intérêts de ce syndicat-là.
Ah ben,
donc, au gré des intérêts...
C'était ça ma question.
De la, CEDEAO, la situation s'est arrangée en Gambie. Mais au gré des intérêts de ce syndicat-là, la situation s'est arrangée au Burkina Faso. Au gré de leurs intérêts, la situation ne s'arrange pas au Togo.
Donc c'est au gré de leurs intérêts, ce n'est pas une incapacité organique, ce n'est pas une incapacité intrinsèque.
J'ai dit qu'ils ont joué, j'ai dit que le médiateur a joué pour Fort Yassine. Le médiateur a aidé Fort à reprendre la main sur les jeux politiques au Togo. Et il y a ce qu'on appelle dans la médiation politique l'esquive. En réalité, s'il n'y avait pas d'esquive, le médiateur n'aurait pas laissé avancer fort. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que il faut que la paix règne en Afrique. Il faut que la politique se fasse de façon apaisée. Et chaque fois que, même par malice, ceux qui sont en charge, ceux qui ont prétendu le pouvoir aider les autres à se mettre ensemble, à se mettre d'accord, lorsque par malice, vous ne le faites pas, la situation va toujours, n'est-ce pas, imposer sur les autres pays de la sous-région. Il est urgent d'appeler les autorités togolaises à la raison, d'appeler aussi...
C'est ce qu'ont fait les évêques.
L'opposition, il faut appeler l'opposition togolaise à évoluer sur ces positions qui sont à la fois radicales et dogmatiques. À la fin, ils n'obtiennent rien parce qu'ils ont tenu la rue, mais parce qu'ils veulent, ils ont pour seul agenda et programme que Fort s'en aille. Ils sont en train de tout louper également. Donc, on a profité de cet amateurisme de l'opposition pour les derniers et arriver à la situation qui est en cours aujourd'hui au Togo.
Merci. L'opposition doit mettre du vin, de l'eau à son vin.
Un mot justement avec Monseigneur, sur l'implication de l'Église que vous évoquiez il y a quelques instants, Liliane, l'Église qui... Évidemment, on appelle aux acteurs politiques à en finir avec les violences post-électorales et opérer des réformes pour des élections vraiment équitables et conformes aux standards internationaux. C'est un communiqué de Mgr Denis Amouzou Adjapa, vice-président de la conférence épiscopale du Togo. Mgr Apora Ngalamibe, certains reprochent à l'Église catholique son implication dans le débat politique, en tout cas certains acteurs politiques de la majorité politique au Togo. Qu'est-ce que vous pensez de cette implication? Est-ce que l'épiscopat peut ou doit-il rester en retrait face à ce qui ressemble à une impasse politique aujourd'hui au Togo?
Merci. Quand nous parlons de la politique, c'est bien, on parle bien de la gestion de la chose publique, de la gestion de l'État. Et les évêques sont d'abord des citoyens. Et comme citoyens, ils doivent s'intéresser à la vie de leur pays. Hein? Au-delà du fait qu'ils sont évêques, je me place déjà de ce point de vue. C'est-à-dire, s'il y a des problèmes concernant la gestion de la chose publique, la gestion de l'État, ils ont le droit et le devoir de pouvoir se prononcer sur cette gestion. Et si l'on met notre casquette d'évêque, oui, nous avons la responsabilité, comme pasteur, de veiller sur le peuple que Dieu nous a confié, pour que ce peuple puisse vivre dans la paix et la concorde. C'est le message que les évêques font, et c'est le message de l'Église, le message de la paix, le message de la concorde. Et tout ce que nous faisons, tout ce que l'Église fait, c'est dans le souci, seulement dans le souci de pouvoir contribuer à ce que la paix puisse régner dans nos pays.
Donc, Monseigneur, vous ne comprenez pas que certains vous répondent lorsque les évêques prennent position ou l'Église catholique prend position, qu'il vaudrait mieux pour les prêtres en soutane d'aller s'occuper de leurs fidèles et de leur paroisse.
Mais Oui, mais nos fidèles, ils sont où? Ils ne vivent pas dans le ciel, ils sont quelque part, sur la terre. Et sur cette terre, pour que nous puissions nous occuper d'eux, il faut d'abord qu'ils vivent dans la paix, la sérénité et la quiétude.
Alors, Monseigneur Aboura...
Il n'y a pas la paix.
Oui,
tant qu'il y a l'insécurité, comme c'est le cas chez nous, où nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller annoncer la parole de Dieu, pour aller annoncer le message de la paix, alors le problème de l'insécurité, le problème des troubles religieux...
L'insécurité donc, aussi pousse les fidèles à déserter les églises. Si on revient au Togo, Monseigneur Apora Galanibé, si le scrutin est maintenu au 20 décembre et s'il a lieu sans la principale coalition des 14 partis d'opposition qui a d'ailleurs confirmé sa décision de boycotter ce scrutin, est-ce que d'après vous, la CEDEAO ou la communauté internationale devrait avaliser les résultats de cette élection?
Je dois dire que c'est vrai, c'est dommage que bon, nous puissions arriver à cette situation. Il n'y a-t-il pas, il faut certainement convoquer tous les acteurs et parler de cela avec eux, qu'ils puissent entendre directement sur le report ou non du scrutin. Je pense qu'en politique, il faut savoir aussi faire des concessions. Hein, et c'est important. On a parlé ici de la mauvaise foi des acteurs politiques. Il y en a qui sont ridés sur l'opposition et cela fait en sorte que les choses ont du mal aussi à décoller.
Donc, un peu de flexibilité de part et d'autre.
Oui, je pense bien.
Merci.
Je pense bien, madame.
Francis, on va passer sans transition au dernier sujet, la RDC. Si vous m'en donnez la permission, monsieur Lalouko, voilà, on va dans la République démocratique du Congo où la coalition Lamuka a accusé jeudi les autorités d'entrave à la campagne de leur candidat Martin Fayulu. Devant la presse jeudi, son équipe a indiqué que le gouvernement ne prend pas des mesures pour délivrer les autorisations de survol et d'atterrissage des avions que l'opposant doit faire venir d'Afrique du Sud pour battre campagne, notamment à l'intérieur du pays. Denis Kwebo, je commence avec vous. Peut-on dire que la seconde semaine de campagne électorale en RDC qui s'ouvre ce lundi commence plutôt mal?
Mais la seconde semaine de campagne va commencer mal comme c'est le cas dans la plupart des pays africains. Et ce qui est quand même difficile à comprendre, c'est que pourquoi est-ce que nous réussissons à maintenir un état de non-démocratie dans le pays? Il n'est pas question que le pouvoir en place en RDC est seul, n'est-ce pas, la décision de faire, par exemple, intervenir le dispositif de campagne des adversaires. Les conditions d'une élection libre et transparente doivent être négociées d'avance dans nos pays pour que la période de campagne ne soit pas une période de deuil. Ce n'est pas en pleine période de campagne qu'on va discuter de ces questions-là.
Excusez-moi, Denis, il s'agit précisément de faire venir des avions qui doivent être utilisés par le candidat. Et pour cela, il faut absolument les autorisations d'atterrissage et de survol du ciel congolais.
Bien sûr, c'est pour ça que je parle des dispositifs de campagne. Le Congo est un sous-continent, ce n'est pas un pays comme le Cameroun ou peut-être d'autres pays de la sous-région du Chili ici. C'est un sous-continent. Et tout le monde sait à l'avance qu'on ne peut pas parcourir l'ensemble des provinces en voiture, c'est d'abord inaccessible, et ce n'est pas de bon ton pour ce pays-là, qui est maudit par ses ressources énormes. Donc je disais qu'il faut qu'on arrive à une situation où, en cas d'élection dans un pays africain, les conditions d'équité, les conditions d'accès égal aux ressources, aux...
aux médias aussi, peut-être.
Il faut que cela soit possible. Et on verra que l'élection les résultats d'une élection sont à la fois contestables et contestés d'avance lorsque les vagues comme cela sont à poser. Et la situation du Congo appelle à les autres acteurs dans tous les pays, en Centrafrique, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, à discuter d'avance des conditions de développement d'un scrutin. Le scrutin, ce n'est pas dans l'isoloir. Le scrutin, c'est toute la superstructure qui entoure cette question-là. Et le fait de faire venir librement ou non un avion de l'étranger pour base de campagne doit être discuté d'avance. Or, pendant très longtemps au Congo, vous savez que toute la manœuvre, c'était que est-ce que Kabila se présente, est-ce que Kabila ne se présente pas. Par la suite, est-ce qu'il y a un candidat unique, est-ce qu'il n'y a pas de candidat unique. Les gens n'ont pas pris des dispositions, notamment pour que cette campagne...
Vous parlez véritablement de l'organisation de cette élection.
Merci. Donc, tout le monde était sur des questions qui, aujourd'hui, se doivent être accessoires. C'est-à-dire que même s'il y avait un seul candidat en face du candidat du pouvoir, le problème serait qu'il faut que le pouvoir soit et la décision d'autoriser ou non l'avion ou l'hélicoptère qui va vous permettre de faire battre campagne. Du coup, la question n'est pas seulement celle de la candidature unique, la question n'est pas seulement celle de l'encre indélébile, mais la question est qu'il faudrait que tout le monde, tous les candidats aient des chances égales de battre campagne partout où on peut trouver les citoyens d'un pays comme le Congo.
Merci.
Cela n'est pas possible aujourd'hui et ça devrait faire réfléchir ceux qui aspirent à prendre le pouvoir dans des conditions qui ne sont pas démocratiques.
Oui, Francis. Monseigneur Poura Ngalanigbe, compte tenu des derniers développements de cette actualité congolaise dans le camp de l'opposition en tout cas, que les candidats de l'opposition vont devoir se battre désormais sur deux fronts. D'un côté, ils vont devoir donc gérer une rivalité entre eux-mêmes sur le terrain, tout en affrontant par ailleurs le candidat du pouvoir. Est-ce que dans cette configuration, l'opposition peut encore tenir la promesse de l'alternance ?
Avant de répondre à votre question, je dois dire qu'il est bien dommage qu'on assiste à ces divisions au sein de la classe politique congolaise, comme c'est le cas ces derniers temps, avec la division, on l'a vu, entre les opposants qui au départ voulaient faire équipe ensemble, et qui malheureusement voilà, ils sont divisés, comme on doit le dire, toujours pour des intérêts politiques égoïstes. Je suis d'accord avec pour répondre à votre question, je suis d'accord avec mon ami du Cameroun tout à l'heure. Je crois que le problème au Congo, c'est le fait que voilà, les conditions de la réalisation de ces élections n'ont pas été bien mûries et posées.
Surtout qu'il y avait des doutes au niveau même de la tenue de la date, c'est-à-dire le calendrier lui-même n'était pas très rassurant.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Et vous vous souvenez que les évêques, plusieurs fois d'ailleurs, se sont levés pour attirer l'attention des uns des autres pour qu'il y ait des élections crédibles. Il faut bien poser les bases. C'était déjà l'Assemblée disons, au 22 novembre 2018, vous vous souvenez, où les élections ont écrit pour dénoncer un certain nombre de faits, souligner le manque de consensus déjà, et cela dénonce cette division au sein de la classe politique, dénonce bien du fait qu'il y a manque de consensus.
Et la question de Francis était de savoir justement quel peut être l'impact de cette division pour l'opposition. Est-ce qu'elle réussira à tenir la promesse faite aux Congolais d'apporter le changement à cette alternance ?
Oui, j'en viens, madame. Je crois qu'il est difficile. Il est difficile parce que tous n'ont pas les mêmes chances. Quand vous prenez Fayoulou ou bien celui de Ramazan Shadari, qui est le candidat du parti présidentiel, lui, il a beaucoup plus de chance. Et on a l'impression que toutes les chances sont de son côté. Vous avez parlé tout à l'heure des avions qu'on a loués pour le transport
du candidat Fayoulou.
Fayoulou, etc. Mais est-ce que les autres opposants ont les mêmes chances
les mêmes moyens à la disposition de leur campagne. Mais en tout cas, c'est ce qu'on verra bien dans les prochaines semaines. Pour l'instant, on ne sait pas ce que prépare le camp de Félix Tshisekedi. Francis, c'est le moment que vous aimez beaucoup.
Plus que jamais.
Là, c'est moi qui prends les devants aujourd'hui.
Le moment est venu d'écouter le message de nos auditeurs, recueilli et livré à présent par Richard Thierry Mbouekidjina.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Centrafrique pour Taneni Zefalbo, la MINUSCA est très passive envers les groupes armés dans le pays. Pour notre auditeur N'Djamena, avec le massacre d'Alindao, la mission onusienne démontre ainsi ses limites à rétablir la paix dans le pays. Et Jean-Michel Essou de le contredire, car pour notre internaute du pays des Lions Indomptables, les tensions intercommunautaires sont encore vives en Centrafrique et la communauté internationale ne saurait fermer les yeux dessus. David Koudjou, quant à lui, aimerait savoir comment est-ce que l'Église arrive-t-elle à gérer les conflits internes entre eux, les fidèles. Togo, Mephiskiti pense que les leaders politiques s'amusent avec le peuple et Albert Sangaré de son côté se demande où est passée la médiation de la CDAO. Et enfin, sur la République démocratique du Congo, Charles Bazema pense que l'opposition congolaise a été trahie par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Et pour Pancras Lovu, il est plus que certain qu'Emmanuel Chadari sera élu. Merci à Jean Katukai et Pacom Armel Ulrich qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Merci Richard.
Merci Richard.
Francis,
en quelques secondes, Monseigneur, ouais. Une conclusion s'il vous plaît.
Je tiens à vous remercier pour m'avoir choisi.
C'est nous qui vous remercions.
À ces échanges.
Tout à fait.
Oui. Et cela, je prie le Seigneur pour que voilà, il continue de vous fortifier dans ce travail que vous faites.
Merci.
Informer l'opinion sur les questions brûlantes de l'actualité et à caractère des questions aussi, voilà, contribue aussi à l'éducation de la paix. Il me semble que ce travail, que nous tous nous faisons, chacun à sa manière, en église, comme dans les médias, nous essayons de faire ça. Tant que le Seigneur continue de nous donner la force.
Merci.
Vous bénissez et bénissez votre émission.
Merci beaucoup, Monseigneur. C'est très rare pour nous c'est de recevoir une bénédiction.
La bénédiction en direct.
Épiscopale, nous en sommes très touchés.
Bon retour à Bambari, Monseigneur.
Merci, Monseigneur.
Galanibé.
Merci.
Merci
à Denis Kwebo également, qui était avec nous au téléphone. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production Thierry Richard Mbouekidjina. Vous pouvez écouter cette émission podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1. Bon week-end à vous et aux auditrices et aux auditeurs.
Merci Francis Laloupe pour vous également. Rendez-vous dans la semaine prochaine avec un autre invité au cœur de l'actualité africaine. Au revoir.
Au revoir.